Bonjour à chacun. Hop là. Je crois que Yves, effectivement, disait ce que le Seigneur inspire dans les messages. Je crois que c'est important de le dire et de le répéter. Bien souvent, quand, que ce soit pour moi ou je sais que c'est la même chose pour les frères qui annoncent la parole, en général, et c'est normal, on se positionne d'abord nous-mêmes devant ce qu'on est amené à prêcher, et parfois si c'est des paroles qui peuvent reprendre ou déranger un petit peu, en tout cas moi je dis Seigneur, je veux me placer devant cette parole, et si ça doit me déranger aussi, bien souvent c'est ce que le Seigneur met sur mon cœur, c'est d'abord quelque chose qui touche notre propre cœur et qui nous met à cœur d'apporter à l'Église. Alors ce matin, voilà, c'est avec joie, mais toujours avec un peu de tremblement. Je ne tremble pas physiquement, mais c'est toujours de l'appréhension d'apporter le message, parce que c'est une responsabilité, et voilà, que Dieu conduise ces moments, qu'il dispose nos cœurs pour que nous soyons réceptifs à son message. Dans plusieurs textes de la Bible, l'Église est comparée à une fiancée, une épouse. Jésus lui-même a utilisé, on connaît bien pour ceux qui connaissent la parole, on connaît bien cette parabole des 10 vierges. Paul a utilisé aussi dans ses enseignements à plusieurs reprises cette image pour parler des relations entre mari et femme, en comparant l'Église qui est l'épouse et Jésus qui est l'époux. Et puis dans le livre de l'Apocalypse, à plusieurs reprises, il est question aussi de cette épouse qui est l'Église. Et chaque fois que cette image est utilisée pour comparer l'Église à l'épouse, il est question de se préparer et d'être prêt pour les noces. C'est toujours un temps de préparation. Pour cette rencontre, pour l'union de l'Église avec Christ, lorsqu'il aura réuni auprès de lui tous ceux et celles qui lui appartiennent. Alors, il est clair que le salut, c'est quelque chose qui est personnel. Ce n'est pas une Église, une communauté, ce n'est pas une nation. Le salut, il est reçu personnellement, c'est un enjeu personnel dont personne d'autre que nous ne porte la responsabilité. Mais malgré cela, ce que la Bible appelle les noces de l'agneau concerne bien l'Église. Elle ne nous concerne pas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de manière individuelle, mais ça concerne l'Église, une Église qui se sera préparée. Et Paul écrit aux Éphésiens, au chapitre 5, « C'est pourquoi l'homme quittera ou délaissera son père et sa mère pour s'unir à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un seul être ou qu'une seule chair, selon les traductions. » Et Paul écrit « Le mariage est certes un grand mystère, mais derrière ces paroles se cache une vérité encore plus profonde, l'union de Christ et de l'Église, dont la réalité humaine n'est que le symbole. » Et donc je voudrais aborder ce matin, on ne pourra pas prendre le temps de tout voir dans le détail, mais je voudrais aborder les dangers qui guettent l'Église, cette épouse, et qui pourraient l'empêcher d'être prête pour ce jour glorieux. Et avant de revenir sur, avant d'aborder ces dangers, quelques-uns des dangers, je voudrais revenir sur quelques notions importantes sur ce qu'est l'Église. Dans le texte original, l'Église, la terminologie, c'est appelé hors d'eux. Ce sont des gens, c'est une assemblée, le rassemblement de personnes qui sont appelées hors d'eux. C'est l'assemblée de ceux que Dieu a appelés hors du monde. Hein, et Paul écrit aux Corinthiens, dans sa première épître, il introduit la première épître de cette manière-là. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et quelle est cette Église ? À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Donc la véritable Église, l'épouse que Christ viendra chercher, est composée d'hommes et de femmes sauvés par grâce, qui marchent selon Dieu et qui se sont préparés à la rencontre de Jésus. Et la traduction, j'aime bien, j'ai déjà évoqué, parfois comparer les traductions, et la traduction parole vivante de cette introduction de Paul à l'église de Corinthe dit ceci, « À l'église de Dieu établie à Corinthe, à ceux qui sont consacrés à Jésus-Christ et qui, dans la communion vivante avec lui, dans la communion vivante, donc c'est bien dans quelque chose qui est vivant, qui se vit au quotidien, dans la communion vivante avec lui, ont été appelés à mener une vie sainte. » Alors, comment l'Église peut-elle et doit-elle se préparer ? Est-ce que c'est de façon individuelle Ou est-ce que ça doit être d'une manière collective? Ben, je vais répondre ni l'un ni l'autre, mais plutôt les deux. Plutôt les deux. Pourquoi? Parce que si j'ai bien compris que l'Église de Dieu, c'est aussi moi qui la compose, alors je vais me préparer bien évidemment personnellement, puisque je le disais, le salut, il est avant tout personnel. Mais dans cette préparation de l'Église, que Dieu veut parfaite, veut belle, alors je vais me préparer moi, personnellement, pour que cette Église, cette épouse que Jésus-Christ viendra chercher, soit belle, soit digne, et qu'elle l'honore. Et c'est la notion du corps de Christ que Paul prendra également comme image dans Corinthiens. On connaît bien ce passage. Là aussi, je l'ai pris dans la traduction Parole vivante. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 24. Paul écrit ceci. Il compare d'abord notre propre corps. Et ensuite, il fait l'image avec le corps de Christ. Et il dit ceci. Dieu a fait de notre corps un ensemble harmonieux dans lequel il a disposé les différentes parties de manière à donner une fonction essentielle aux organes les plus humbles, afin qu'on honore davantage ceux qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et donner aux différents membres le sens de leur solidarité réciproque. J'aime bien cette traduction. Donner aux membres le sens de leur solidarité réciproque. Si mon bras il n'est pas attaché au corps, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Hein ? Si mes pieds ne sont pas attachés à mes jambes, ils ne vont pas pouvoir faire grand-chose. Il y a cette notion de solidarité réciproque. Mon corps a besoin de mes bras ont besoin de mon corps. Que chacun d'eux ait le souci des autres et leur témoigne une égale sollicitude. Un membre souffre-t-il ? Tous les autres en pâtissent et souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les autres partagent sa joie. Et il continue en disant « hors vous ». Donc là, il va comparer notre propre corps et nos membres. Il va le comparer à l'Église de Christ, composée des différents membres des enfants de Dieu. Or vous, vous constituez ensemble, je dirais or nous, enfants de Dieu, nous constituons ensemble le corps du Christ. Et chacun de vous, pris à part, en est un membre ou un organe auquel Dieu a assigné sa place et sa fonction. Et ce texte décrit bien précisément l'interaction entre les différents membres et cette notion d'Église, d'unité, de corps, que Christ veut former, veut travailler, veut préparer pour ce jour glorieux des noces de l'agneau. Alors, la santé de mon corps dépend directement de la santé de chacun de mes membres et de mes organes. Si j'ai un organe qui vient à défaillir, alors je ne peux pas dire que je suis en bonne santé. Si j'ai un problème au foie, même si tout le reste va bien, je ne vais pas dire « je suis en bonne santé, tout va bien ». Non, parce que j'ai un organe qui est défaillant, alors le corps souffre, il y a des conséquences, et je ne peux pas dire, le corps entier ne peut pas dire « je suis en bonne santé ». La santé spirituelle de l'Église dépend également de la santé de ceux et de celles qui la composent. En tant qu'enfant de Dieu, membre du corps de Christ, je dois être conscient que ma santé spirituelle impactera forcément l'Église. Elle l'impactera en bien ou elle l'impactera en mal, mais si je réalise que je suis membre de ce corps, alors inévitablement, j'impacte le corps par ma bonne santé ou par ma mauvaise santé. Et je dois par conséquent être sensible bien évidemment à ma propre santé, mais aussi être sensible et attentionné à la bonne santé de mes frères et sœurs pour m'assurer que le corps tout entier se porte bien. Vous me suivez? Vous avez le droit de dire « Amen » si vous êtes d'accord. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, je ne vous force pas. Et moi, ça m'a repris cette notion-là parce que, même moi, je l'avoue, ça m'est arrivé parfois, peut-être ici ou ailleurs, de dire « Oui, mais l'Église... » Elle est pas ci, elle est passée ça, elle a trop de ci, elle a trop de ça. Parfois, on parle de l'Église comme si moi je suis là et l'Église est là. Et je la regarde avec mes jumelles ou avec une loupe et je dis l'Église en parlant de la nôtre ou d'autres églises. Elle est trop ci, elle est trop ça, elle est pas assez, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais le Seigneur m'a repris, m'a dit, mais est-ce que tu es conscient que tu es dans l'Église? Donc comment est-ce que toi, Daniel, tu impactes l'Église? Il n'y a pas assez de ci dans l'église, il n'y a pas assez de ça, mais toi, qu'est-ce que tu y apportes? Est-ce que tu apportes ça? Il n'y a pas assez d'amour, mais toi, quel est ton amour pour l'église? Il n'y a pas assez de manifestations dons spirituels, mais toi, est-ce que tu manifestes les dons spirituels? Et je pourrais allonger la liste. Et je crois que quand ces pensées nous viennent sur l'église, qui, oui, est en marche, elle est en route vers la perfection, je ne suis pas en train de dire que l'église, elle est parfaite, que tout va bien, mais quand ces pensées me viennent, alors deux questions à se poser. Comment ma propre vie influence l'Église? Quand je trouve que l'Église n'a pas assez de quelque chose, eh bien, qu'est-ce que je fais, moi, pour y apporter ma dose, ma contribution? Et puis, qu'est-ce que je fais pour y remédier? Est-ce que je vais continuer à critiquer, à dire, ouais, mais il n'y a pas assez de... Enfin, je veux pas déverser de mots. On sait tous dans notre cœur ce qu'il peut y avoir. Ou alors, est-ce que je vais tout de suite me mettre à prier et agir pour le bien de l'Église? Parce que je l'aime, parce que je la chéris, et surtout parce que j'ai compris que l'Église, c'est moi aussi. Et en bénissant l'Église, je me bénis aussi, parce que je suis béni au travers de mes frères et sœurs. Amen. Et l'épouse, l'Église, doit donc être prête pour rencontrer son époux. Cette notion de noce de l'agneau, je vais pas refaire, j'en ai pas les compétences d'ailleurs, et puis c'est pas le propos de mon message, je vais pas refaire toute la chronologie de l'enlèvement, de la tribulation, mais les noces de l'agneau ont quelque chose de particulier. Cette notion de la rencontre, de l'union de l'Église et de Christ. Parce que dans cette Église-là, on va retrouver nos frères de la première Église. On va retrouver nos frères et sœurs qui, au travers les âges, sont morts d'une mort naturelle, ont été enlevés au ciel pour quelques-uns, et que ce soit nous-mêmes qui passions par la mort et qui soyons emmenés dans le ciel avec le Seigneur, ou qu'on soit l'Église qui va être enlevée, ce rassemblement, cette Église, cette noce de l'agneau, va rassembler l'ensemble des fidèles, de ceux et celles qui seront restés fidèles à Christ, pour un temps vraiment particulier d'union avec Christ. Et donc Paul écrivait aux Éphésiens, « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pourquoi il a fait ça? Pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. » Et c'est cette marche-là que l'Église, sur cette terre, doit avoir ce temps de préparation de l'épouse pour que, au moment des noces, nous ne soyons pas comme les vierges folles, mais que nous soyons comme les vierges sages, préparées, et que cette Église sans tache ni ride ni rien de semblable soit prête. Alors, il y a quelques dangers qui guettent l'Église dans sa préparation et qui doivent nous interpeller individuellement. Ça doit interpeller l'Église, mais une fois de plus, je ne vais pas refaire la démonstration. Si je suis conscient que moi-même, je suis membre de ce corps, membre de cette Église, alors, il y a des dangers qui guettent l'Église et je voudrais m'appuyer sur les lettres aux sept Églises révélées à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos quand il a eu cette révélation et qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Là encore, je ne vais pas faire une étude exhaustive de tout ce qu'il y a dans ces lettres-là. Je voudrais juste relever quelques points particulièrement sur ces dangers. Et avant de les prendre les unes après les autres, je voudrais faire remarquer qu'on retrouve dans ces lettres, dans ces avertissements, plusieurs points communs. Pas systématiquement, mais de manière assez récurrente, un décalage entre l'apparence et la réalité. Et vu sous deux angles, c'est ce que nous ou ce que l'Église pense d'elle, et puis la manière dont Dieu la voit. Et là, on va se rendre compte qu'il peut y avoir parfois un décalage énorme parce que nos yeux charnels ne voient pas forcément les mêmes choses que les yeux de Dieu. Et puis, ce sont souvent des églises qui sont engagées dans des œuvres, ça revient très souvent, mais qui s'éloignent de l'essentiel. Et là, on peut être attiré par toutes sortes d'activités, je dirais même de l'activisme, c'est-à-dire que il faut être partout, il faut introduire tous les milieux, il faut faire plein de choses. Dieu n'est pas contre, hein. D'ailleurs, on verra que ce ne sont pas des reproches qu'il va faire à l'Église. Les reproches, ce n'est pas forcément sur les œuvres et sur les activités, mais les reproches vont être sur le fait que, bien souvent, ce sont des œuvres qui ont éloigné les églises de l'essentiel. Et puis, il y a des avertissements sur les enseignements de doctrine mensongère, mais il y a aussi une chose qui doit nous donner de l'espérance et de la joie, c'est systématiquement la patience et la miséricorde de Dieu qui appellent à la repentance. On est encore dans le temps de la grâce. Ces lettres, ces avertissements sont pour nous préparer. Il sera un temps où les choses seront actées et ce sera définitivement terminé. Et ce temps de la grâce nous permet encore de nous préparer, nous permet d'être attentifs, d'être vigilants, de nous détourner de nos mauvaises voies et de revenir sur le chemin de Dieu. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, on va faire une lecture dans Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, et on va prendre à partir du verset 2. « Je connais tes œuvres », donc ici l'ange s'adresse, donne cette révélation à Jean concernant l'église d'Éphèse. Et donc il dit ceci à propos de cette église, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. » et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Cette église, elle était active, et je dirais qu'elle avait même plutôt un bon témoignage, à l'extérieur comme à l'intérieur, et Dieu reconnaît ces choses-là. C'est une église qui a une bonne conduite, qui a des œuvres bonnes. Dieu connaît ses travaux, sa peine, son endurance, sa fatigue, la patience dont elle fait preuve. C'est une église qui ne s'est ni découragée, ni lassée dans les moments d'épreuve. Moi, je dirais, ça donne envie comme église. Je ne sais pas si vous étiez à la recherche d'une église. En étudiant un petit peu les critères, moi, c'est une église dans laquelle je me sentirais, je pense, plutôt bien. Et Dieu ne reproche pas ces choses-là à cette Église. Par contre, Dieu dit à Éphèse, et pourtant, j'ai quelque chose contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Moi, ça m'a interpellé parce qu'il y a plein de bonnes choses. Il y a plein de bonnes choses, y compris de bonnes choses spirituelles. Il n'y a pas que des œuvres, il n'y a pas que des choses pratiques ou matérielles. Il y a aussi, je pense, un bon enseignement. Il y a de la persévérance, de la patience. Il y a une mise à l'épreuve, le discernement de ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas. Donc il y a vraiment une solidité, il y a, je pense, une solidité spirituelle dans cette Église. Et pourtant, Dieu, l'Esprit dit, « Tu as abandonné ton premier amour ». Remarquons que l'Esprit ne dit pas « tu as perdu ». On ne perd pas son premier amour ou son amour, on l'abandonne, mais on ne le perd pas. Et en fait, la traduction dit « tu ne m'aimes plus comme au début ». C'est-à-dire que le feu qu'il y avait, il a diminué. J'ai pas mis de bois dans la chaudière et le feu, tout doucement, il s'est éteint. Il brûle, mais il ne brûle plus comme au début. Et en travaillant sur ce message, je me disais à moi-même, mais qu'est-ce qui faisait battre mon cœur dans les jours, les semaines qui ont suivi ma conversion, ma rencontre avec le Seigneur? Je crois que c'est une question qu'il est bon de se poser régulièrement. Si on a d'ailleurs du mal à répondre à cette question, demandons vraiment à Dieu qu'il nous éclaire sur la rencontre. A-t-on réellement rencontré Dieu? Quel a été ce changement, cette transformation de vie? Qu'est-ce qui faisait battre mon cœur au début de ma conversion,
de ma rencontre personnelle avec Dieu. Là, les critères peuvent être nombreux. Le temps passé à lire la Bible, à chercher la présence, l'intimité de Dieu. On dévore la Bible, on a soif de le connaître. Et puis au fil du temps, les choses s'étiolent. Et puis on peut passer des jours sans rechercher sa face, dans l'indifférence. Je ne dis pas, ne tombons pas sous la loi, je veux rester extrêmement équilibré. S'il y a des conditions qui font à un moment, une journée, je n'ai pas pu ouvrir ma Bible et je n'ai pas pu avoir un temps particulier comme j'ai l'habitude d'avoir, ne soyons pas dans la culpabilité. Mais qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de mon cœur? Qu'est-ce que ça fait dans mon cœur si pendant un jour, deux jours, une semaine, je n'ai pas d'intimité avec Dieu? Est-ce que c'est de l'indifférence ou est-ce que c'est de la tristesse parce que ça, je l'avais reçu quand j'ai rencontré le Seigneur, ça brûlait au-dedans de mon cœur et puis ce feu-là, tout doucement, s'est éteint. Chercher sa volonté ardemment, chercher ce qui lui est agréable. Quand on rencontre le Seigneur, il y a une transformation et on a envie de lui plaire. Seigneur, je ne sais pas quoi faire pour te plaire, pour t'être agréable. Et puis, là encore, c'est un feu qui peut s'éteindre au fil des années. Ma vie d'église, la joie, l'impatience de me retrouver avec mes frères et sœurs, c'est souvent un témoignage quand on entend des frères et sœurs qui, le jour du baptême ou dans des échanges, parlent de leur premier jour, leur première marche, quand ils découvrent le Seigneur, quand ils découvrent l'église locale, ils disent mais j'étais là à tout faire pour ne pas louper une réunion, pour être là, pour me retrouver, pour entendre la parole, pour partager avec mes frères. Est-ce que ça brûle encore dans mon cœur? Est-ce que ça brûle encore dans mon cœur? Ou est-ce que Ouais, mais je suis fatigué, j'ai un petit rhume, j'ai ci, j'ai... Enfin, là encore, on peut se trouver toutes les excuses et je ne veux apporter aucun jugement parce que je me l'applique à ma propre vie. Mais quelles sont les profondes motivations? Qu'est-ce qui brûle dans mon cœur pour l'Église? Est-ce que ça me manque lorsque je ne peux pas venir pendant quelque temps aux réunions d'Église ou est-ce que j'y suis indifférent? Tu as abandonné ton premier amour. On pourrait parler du témoignage, on pourrait parler de plein de choses, mais là encore, chacun, on peut se tenir devant Dieu et dire « Seigneur, rappelle-moi ce que tu as mis dans mon cœur, ce dépôt que tu as mis dans mon cœur quand je t'ai rencontré. » Et là, pour les uns et les autres, parce que c'est une diversité, c'est la richesse du corps. Ce qu'a reçu mon frère, je ne l'ai peut-être pas reçu de la même manière. Ce qu'a reçu ma sœur, je ne l'ai peut-être pas reçu pareil. Ce que j'ai reçu, tu ne l'as peut-être pas reçu. C'est ce qui fait la richesse du corps. Mais Seigneur, je veux que ce feu-là qui était ardent, qui brûlait dans mon cœur, alors je veux le retrouver. Je veux le retrouver. Et cette mise en garde nous apprend qu'il ne suffit pas de connaître et de suivre une bonne doctrine. Cette église d'Éphèse, je pense qu'il y avait plein de bonnes choses. Et Dieu ne reproche pas à cette église toutes ses bonnes actions, mais il l'avertit sur cet ardent amour du début qui a été abandonné. Et notre engagement dans l'église, dans nos œuvres, dans notre service, dans mon service, ne doit pas être l'occasion de laisser retomber mon amour pour Christ. Et Jésus lui-même avertit de ces temps. Dans Matthieu chapitre 24, il dit « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Il y a un lien direct, une cause à effet directe entre l'iniquité qui prend de la place et plus l'iniquité prend de place et plus l'amour se refroidit. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il est question ici d'enfants de Dieu. Hein. Il est question, dans ce passage-là, il n'est pas question des gens du monde, parce que les gens du monde n'ont pas d'amour pour Dieu. Il est bien question ici de l'iniquité qui peut grandir dans nos cœurs si on n'y veille pas. Et plus l'iniquité va grandir, plus je vais lui laisser de la place, et plus mon amour va se refroidir. Mais, comme je le disais, la patience, la miséricorde de Dieu, sa main tendue, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Il y a un appel à la repentance, Dieu est là parce que nous sommes encore sous le temps de la grâce, il n'est pas là pour nous condamner, il est là pour nous avertir, pour nous préparer. Et à pratiquer nos premières œuvres, ça m'a parlé aussi, parce qu'on le voit, une église qui était là dans beaucoup d'œuvres bonnes, et pourtant, l'Esprit lui dit, Il l'appelle à la repentance et à pratiquer ses premières œuvres. Ça veut dire que les œuvres qu'elle pratiquait n'étaient plus conformes, n'étaient plus les mêmes que les œuvres du début. Ça veut dire que lorsque notre amour se refroidit, nos œuvres ne sont plus en phase avec celles que Dieu attend de nous. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui doit parler à nos cœurs dans nos actions quotidiennes, que ce soit de manière individuelle ou collective, dans nos responsabilités, dans notre service dans l'Église, dans les œuvres bonnes qu'on peut pratiquer. Sont-elles toujours en phase avec ce que Dieu attend de moi? Sont-elles toujours en phase avec l'amour qui est dans mon cœur? Et Dieu nous appelle à pratiquer nos premières œuvres. Là encore, quand on se remémore ces premiers temps de marche avec le Seigneur, « Ah ouais, tiens, c'est vrai, je me souviens à l'époque. Ah ouais, c'est vrai qu'on faisait ça. Ah, c'est vrai qu'on se retrouvait pour ceci. » Et bien souvent, on se rend compte qu'au fil du temps, les choses ont changé. La deuxième église que je voudrais prendre, je ne vais pas les prendre chronologiquement, en tout cas dans la suite dont elles sont écrites dans le livre de l'Apocalypse. On va passer à l'église de Pergame, au chapitre 2, verset 13. Donc l'Esprit dit ceci, « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Pergame était une ville célèbre pour ses temples d'idoles. Il y avait une multitude de temples pour toutes sortes d'idoles. Et le terme, littéralement le terme « Satan y règne en maître », la traduction, c'est là que se trouve le trône de Satan, puisqu'il y avait un temple dédié à Satan lui-même. Donc c'était vraiment une église qui était dans un environnement on ne peut plus hostile. Ça peut faire penser à l'Église persécutée, mais je crois que là, il y avait vraiment un domaine de démons, de puissance occulte. Et cette Église de Pergame, elle était là, au milieu, dans ce contexte-là. Et c'est une Église qui, dans son ensemble, était fermement restée attachée à Dieu, y compris dans les temps difficiles, puisqu'il y avait eu des persécutions, et l'un des leurs, un des frères Antipas, y avait même laissé sa vie. Et malgré ces circonstances difficiles, l'Église était restée attachée à Dieu. Mais Dieu lui fait un reproche, l'Esprit lui dit « J'ai quelque chose contre toi ». Dans les rangs de cette Église, il y avait des personnes qui prônaient la débauche. Alors, je ne vais pas rentrer dans la doctrine des Nicolaïtes. Je relèverai donc juste une chose sur cette doctrine qui incitait à vivre la débauche. En fait, si je devais traduire, c'est « on est sous la grâce, donc Jésus nous pardonne, donc faisons un petit peu tout ce qu'on veut, puisqu'on est au bénéfice du sang de Jésus ». Et vous aurez peut-être remarqué que dans la première lettre adressée à l'église d'Éphèse, l'Esprit dit « Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi ». Donc il y avait vraiment, Dieu haïssait ces œuvres d'impudicité. Et dans cette église de Pergame, il y avait quelques personnes qui annonçaient cette doctrine des Nicolaïtes, cette légèreté. Bah, de toute façon, on est dans le temps de la grâce, donc on peut faire tout ce qu'on veut, puisque Dieu est amour. Dieu aime tout le monde, donc faisons la fête, vivons comme les gens du monde. Et puis Dieu, de toute façon, il nous aime bien, donc il s'arrangera bien pour nous pardonner. L'épître de Jude nous dit ceci au chapitre 1er, verset 4. Cet avertissement qui est repris souvent dans les signes aussi annonciateurs de la fin des temps. Hein. Et Jude écrit ceci. « Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, donc des gens qui vivent sans Dieu, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renie notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu reproche à l'Église d'avoir de telles personnes en ses rangs. Parce que l'Église, le corps de Christ, ne peut pas tolérer de tels comportements, de débauche. Et je dirais, aimer les frères et sœurs, ce n'est pas tout accepter. Sous prétexte de l'amour, ah oui, mais Dieu est amour, il nous demande d'aimer, donc je ferme un peu les yeux, oui, mais il a besoin qu'on le soutienne. Je voudrais prendre avec vous un texte dans 1 Corinthiens, Paul est précis. 1 Corinthiens chapitre 5. Versets 9 à 13. Paul écrit ceci, je ne pense pas que Paul manquait d'amour, j'en suis même persuadé du contraire. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Il est question ici d'une lettre apparemment qui n'a pas été répertoriée, j'irai dans la Bible, mais Paul écrivait régulièrement aux églises et donc il fait mention d'une lettre où il dit « Je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. » Donc nous ne sommes pas appelés à vivre entre nous en autarcie, à nous isoler du monde. Nous sommes hors du monde, mais nous sommes à vivre, à côtoyer les gens du monde. Et Paul apporte cette précision. Il dit « Autrement, il nous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère, donc quelqu'un qui dit moi, je suis membre du corps de Christ, je suis frère, je suis membre de cette Église. Quelqu'un qui se nomme en frère, je reprends le cours de mon texte, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. » Alors, je voudrais apporter, la Bible est extrêmement équilibrée, et je voudrais apporter une précision ici. Sur l'interprétation qu'on pourrait faire de ce verset, qu'ai-je en effet à juger de ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Nous ne sommes pas appelés, et Paul ne nous incite pas à nous juger les uns les autres en permanence, à nous montrer du doigt et à nous chercher les poux dans la tête. Ça n'est absolument pas le cas. Et il n'est pas question ici non plus d'un frère ou d'une sœur qui aurait chuté et qui, repentant, reviendrait à Christ en disant « Oui, je suis tombé dans le péché, mais je me repens, je change de voie, je reconnais que je suis misérable devant Dieu, j'ai besoin de son secours et je demande son pardon. » Et nous n'avons pas à juger. Mais il est bien question, ici, de ceux qui se disent frères ou qui se disent sœurs et qui persistent dans leur péché. Et à ce moment-là, nous devons avoir ce comportement que Paul écrivait à l'église de Corinthe. Je ne peux pas me dire frère, me dire sœur, me dire membre de cette église que le Seigneur veut pure, belle et sans tache, et pratiquer de manière sciemment, pratiquer le péché et continuer à le faire. Jésus lui-même a enseigné dans Matthieu au chapitre 18, versets 15 à 17, et il est question ici d'un terme d'ailleurs où il parle de l'Église, alors que l'Église elle-même n'était pas encore formée, puisque Jésus était encore parmi ses disciples, était encore sur terre, et il dit ceci, chapitre 18, verset 15, « Si ton frère a péché, ah, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors je me suis permis une toute petite dérive, mais rassurez-vous, je vais revenir rapidement dans le texte. « Va, tu le racontes à tous, bien évidemment tu précises que c'est un secret qu'il ne faut pas le répéter à personne, parce qu'en général c'est comme ça qu'on fait. Je te dis un truc, mais Ouais, non, mais c'est juste, hein, c'est juste pour que tu pries, juste pour que tu saches, mais tu le dis à personne. Et puis je vais le dire à un autre, et je lui dis, tu le dis à personne, et puis tout compte fait, ça finit par faire le tour. Non. Le Seigneur, il dit ça. Il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. D'abord, je pense que ça prend même le temps de la réflexion. Parce que si ton frère a péché, d'abord, es-tu sûr qu'il a péché ? Ou as-tu entendu dire que peut-être il se serait passé éventuellement cela ? Parce que ça se passe aussi parfois, comme ça, peut-être pas avec vous, hein, ni avec moi. Non, bien sûr. Si ton frère a péché, si je sais qu'il y a une situation particulière, alors je prie pour ce frère. Je ne suis pas là pour le juger, je ne suis pas là pour l'accuser. Je prie pour lui, je prie pour elle, et puis je vais le voir. Va et reprends-le entre toi et lui seul. Ça ne regarde pas les autres. Et s'il t'écoute, alors tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, c'est-à-dire un pécheur, quelqu'un qui vit sans Dieu. Donc on voit là encore que Jésus ne manquait pas d'amour pour les pécheurs. S'il y en a bien un qui a mis le comble de l'amour pour les pécheurs, c'est bien lui. Donc là, il n'est pas question d'un amour où on accepte tout. Il est question de manifester la grâce pleine et entière, mais de ne pas accepter, de ne pas tolérer dans nos vies ce qui est du péché, parce que ça doit être mis hors de nos vies, hors de l'Église. Et là encore, dans sa bonté, Dieu manifeste sa patience et il veut manifester sa grâce pleine et entière à celui qui se repent de ses mauvaises œuvres. L'Église de Thyatire, je vais accélérer un petit peu. L'Église de Thyatire, donc chapitre 2, toujours de l'Apocalypse, au verset 19. Je connais tes œuvres, là encore une église qui avait des œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres, plus nombreuses encore que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, vous voyez encore la patience de Dieu. Elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elle ne se repente de leurs œuvres, qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Je vais m'arrêter là dans la lecture du texte. Dans cette église, là encore, il y a incontestablement de très bonnes choses. Il y a de l'amour, il y a de la foi, il y a des œuvres bonnes. Il y a un service fidèle, constant, mais il y a une personne qui se dit prophétesse et qui enseigne des doctrines contraires à la parole. Alors là encore, je vais pas rentrer, hein, je vous dis, je vais faire juste des petits focus. Je ne vais pas rentrer sur cette femme, Jézabel, sur ce qu'elle enseignait. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est Jézabel qui se dit prophétesse. Qui se dit prophétesse. Et là, je crois qu'il y a un avertissement aussi sur la séduction qui peut venir sur l'Église, et particulièrement l'Église des derniers temps. La venue de faux prophètes, de lourds ravisseurs, de faux docteurs, dont le seul objectif est d'emmener les brebis à la perdition. Et je pense que si cette femme avait été réellement prophétesse, elle aurait été éprouvée par les responsables de l'Église, elle aurait été éprouvée par les frères, par ceux. La Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et cette femme se disait prophétesse, mais manifestement, elle n'était certainement pas prophétesse de Dieu, ça c'est sûr. Quels sont les fruits de l'arbre ? Y a-t-il une reconnaissance du ministère par de véritables hommes de Dieu ? Je pense qu'on est aussi dans un temps, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais vraiment c'est quelque chose moi, qui touche mon cœur. Quand je vois la séduction qu'il y a dans les milieux évangéliques et la confusion sur toutes sortes de ministères où on a du mal Et la Bible aussi nous dit que dans les derniers temps, ce sera de plus en plus difficile de savoir quels sont, qui est réellement de Dieu et qui ne l'est pas. Parce qu'il y aura toutes sortes de signes. Et je dis, soyons vigilants, soyons attentifs. Y a-t-il une reconnaissance du ministère ? Ne courons pas aveuglément après des personnes qui se disent prophètes, qui se disent apôtres, qui se disent évangélistes, peu importe. Ne nous laissons pas attirer par des titres qui peuvent être usurpés par des fausses identités. Des fausses identités. Et je pense que ce qui est important, ce n'est pas de se dire tel ou tel, c'est d'être approuvé de Dieu et d'avoir des fruits dignes de la vie de Dieu dans nos vies. À l'église de Sardes, au chapitre 3, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. « Je connais tes œuvres. » Encore une église qui avait des œuvres. « Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. » Là encore, un appel au début, à ce qui s'est passé, à la genèse de la rencontre. Garde-la cette parole et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. L'apparence est trompeuse. Ne nous berçons pas d'illusions. Là encore, il y a des œuvres, même des œuvres, on le voit, qui ne satisfont même plus aux exigences de Dieu, mais voilà, il y a une sorte de quelque chose qui semble être de la vie. Mais c'est une église qui passe pour être vivante, mais qui est morte. Là, le regard de l'intérieur et le regard de Dieu, il est en totale contradiction. Tu passes pour être vivante, mais tu es morte. Et ça me fait penser à des ambiances qui peuvent être parfois artificielles et qui peuvent faire croire qu'il y a de la vie. Il y a de la gesticulation, pardonnez-moi de l'exprimer comme ça, mais il n'y a plus de souffle de vie.
On dit, waouh, ça bouge là-dedans, waouh, c'est bien, c'est dynamique, c'est ceci, c'est cela.
Et on a l'impression qu'il y a de la vie. Mais quand le Seigneur met son regard, il dit, tu passes pour être vivante, mais tu es morte. Je voudrais le dire avec vraiment beaucoup d'amour, et je le dis une fois de plus à moi-même. J'ai pas de réponse à une question que je me pose, mais en tout cas, je l'ai pour ma vie. Chacun la prendra. Mais c'est bien d'acclamer le Seigneur et de battre des mains. C'est pas anti-biblique. Acclamer Dieu, on peut pousser des cris de joie, on peut être poussé par l'Esprit à battre des mains, on peut danser de joie, et c'est vraiment la liberté que nous donne Dieu. Mais moi, je me dis, et que chacun se pose la question, si j'ai plus facile à battre des mains qu'à ouvrir ma bouche pour louer le Seigneur, à lui dire ma reconnaissance et ce qui est au fond de mon cœur, est-ce que je suis vivant, est-ce que je suis mort, est-ce que je passe pour être vivant, mais que je suis mort? Je ne veux pas apporter de réponse, je veux juste lancer des choses comme ça. Une fois de plus, avec beaucoup d'amour, je crois qu'on doit se laisser pénétrer chacun par la parole de Dieu. Et je veux rester équilibré, je ne suis pas contre les applaudissements, pas du tout, c'est pas le message que je veux donner. Je dis juste dans ce que nous faisons, les uns et les autres, dans ce que nous vivons, ici ou dans les églises que nous pouvons visiter, ne soyons pas attirés par quelque chose qui peut être un semblant de vie. Quand Dieu pose son regard, est-ce qu'il voit une église vivante ou est-ce qu'il voit une église morte? Et à Sardes, il y avait des œuvres, il y avait des bonnes choses. Mais l'église, elle était morte parce que la vie de Christ ne coulait plus dans ses veines. Et là, on remarque encore une chose, il n'y a pas 10 000 solutions, il n'y a pas de stratégie à avoir pour essayer de retrouver le chemin. Là encore, le Seigneur, il invite à quoi? Il invite à revenir à la source. À revenir au commencement. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Rappelle-toi comment tu l'as reçu. Et garde-la. Garde-la. Gardons la parole telle que nous l'avons reçue. Un chrétien, une église qui ne garde pas la parole, qui ne garde pas l'évangile dans son intégralité, et appelé à perdre la vie. Ça prendra peut-être du temps. On pourra donner l'illusion d'être vivant, mais c'est la mort assurée au bout, parce qu'on va perdre le souffle de vie de Christ en nous. L'Église de Laodicée, chapitre 3, verset 15. Décidément, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien » et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Là encore, la vision qu'on peut avoir sur notre propre vie, sur notre Église, n'est pas forcément la vision de Dieu. Et là, il dit, tu crois être riche, mais tu es misérable. Tu crois être riche, mais tu es pauvre. Tu crois voir, mais tu ne vois rien. Et il y a deux perceptions, deux angles de vue qui sont complètement différents. Et Laodicée, c'est un peu l'Église des compromis. C'est ni froid, ni bouillant, c'est ni d'un côté, ni de l'autre. Et particulièrement sur... Je pense que cette Église avait en son sein des membres, des frères et sœurs qui avaient certaines richesses, qui avaient un train de vie certainement plus que correct. Et là encore, c'est pas un problème. Quand Dieu donne l'abondance, merci Seigneur pour l'abondance quand il la donne. Mais je crois que manifestement ici, on avait des personnes qui s'appuyaient plus sur les richesses de ce monde que sur Dieu lui-même. Et la traduction parole vivante dit « Tu prétends, je suis riche, j'ai fait des affaires, j'ai amassé des trésors, je suis arrivé, j'ai tout ce qu'il me faut. » Ben non. Tu as tout ce qu'il te faut aux yeux du monde, mais tu n'as pas la vraie richesse. Et ça me fait penser à la parabole de l'homme riche insensé. On peut la lire rapidement dans Luc au chapitre 12. Luc au chapitre 12, verset 16, Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. » Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Là, le Seigneur ne reproche pas à cet homme d'être riche. Il a eu des bonnes récoltes, il a... Des greniers qui sont remplis, il dit « je vais remplir, les casser, en faire des plus grands, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il a oublié l'essentiel et qu'au moment où on devra quitter cette terre, ce n'est pas les richesses qu'on aura amassées, ce n'est pas l'assurance-vie, ce n'est pas tout ce qu'on aura pu glaner au fil des années qui fera qu'on méritera le ciel. Que les richesses, que les biens matériels, les carrières professionnelles prometteuses ne nous éloignent pas de la véritable richesse que nous avons en Jésus. Amen. Je pense que le véritable amour pour Dieu, c'est pas le... Il y a un proverbe qui dit la sangsue, elle dit donne, donne, donne. La doctrine, la prospérité, je suis chrétien, donc je dois être dans l'abondance, elle n'est pas biblique. Elle n'est pas biblique. Et Paul dit, je bénis Dieu quand j'étais dans l'abondance, je bénis Dieu quand j'étais dans la disette, et que notre cœur soit attaché à Dieu, non pas à ce qu'il nous donne, mais à qui il est, dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Et si je fonde ma vie sur ma carrière, sur mon statut, sur ma maison, sur mes biens, mais au jour du malheur, tout va s'effondrer comme un château de cartes. Que le Seigneur nous garde des richesses de ce monde. Et puis les deux dernières églises, je les ai regroupées, on ne va pas lire le texte. Les églises de Smyrne et de Philadelphie, ce sont deux églises. J'ai écrit deux églises qui ne payent pas de mine, mais à qui le Seigneur ne fait aucun reproche. Et ce n'est peut-être pas des églises dans lesquelles, moi, spontanément, je serais allé si je les avais visitées. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'église de Smyrne, je connais ton affliction et ta pauvreté. Là, on était à l'inverse de l'église de Laodicée. Je connais ta pauvreté. Je pense qu'elle était une pauvreté aussi matérielle. Bien que tu sois riche, elle avait une autre richesse, cette église. Elle avait une autre richesse. Et donc, contrairement à Laodicée, ils ne roulaient pas sur l'or, mais eux, ils avaient compris une chose. Ils avaient la vraie richesse, ils avaient Christ. C'est une église qui passait par l'affliction, qui passait par la calomnie, mais qui était restée attachée à son maître. Et l'église de Philadelphie, l'Esprit dit, parce que tu as peu de puissance. Et je pense qu'ici, les questions de puissance aux yeux des hommes. Là encore, la puissance, ce n'est pas l'Église qui a la puissance, c'est Dieu qui a la puissance. Donc quand il se passe des choses dans une Église, l'Esprit ne dit pas « cette Église-là a la puissance ». Non, la puissance de Dieu peut se manifester dans une Église, mais ça reste la puissance de Dieu. Et donc quand l'Esprit s'adresse à Philadelphie, il dit « parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole », on revient toujours à cette notion de garder la parole, « et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer ». Moi, je dis souvent, Seigneur, mets des portes ouvertes dans ma vie. Combien de fois on veut essayer de nous les ouvrir? On se dépatouille par 10 000 stratégies, mesures à essayer d'ouvrir des portes. Seigneur, ouvre les portes dans ma vie, ferme celles qui doivent être fermées, ouvre les portes dans l'Église. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Deux églises dont l'apparence n'est certainement pas celle qui frappe les regards, mais qui ont par contre l'approbation de Dieu. Dieu leur fait des promesses de veiller, de leur donner de la force, de tenir ferme lorsque viendront les tribulations et l'épreuve, parce qu'elles sont restées fidèles à la parole. Je dirais que ce sont deux églises, deux épouses qui sont prêtes pour les noces de l'agneau. Alors ces messages... cette église d'Asie ont été écrits, je pense, pour nous exhorter, pour nous avertir, pour nous édifier, nous les églises du XXIe siècle et toutes les églises au fil des siècles. Ces messages nous révèlent clairement ce que Jésus aime, ce qu'il chérit, mais aussi ce qu'il déteste et ce qu'il condamne. Et ce sont autant d'avertissements sur les conséquences de la désobéissance et de la légèreté spirituelle. Alors comment pouvons-nous nous préparer? Comment éviter les pièges de la décadence spirituelle? Comment éviter que ce feu, ce premier amour, nous ne l'abandonnions au fil des mois et des années? Acceptons d'abord d'entendre ce que dit l'Esprit de Dieu et acceptons d'être repris dans notre conduite. L'Esprit martèle que celui qui a des oreilles entende. Alors, on peut réagir de différentes manières, et je peux réagir de différentes manières en me disant « Ouais, mais là, ouais, mais c'est plus d'actualité, mais c'est ceci, ouais, mais c'est pas tout à fait ça, mais laissons-nous sonder par l'Esprit. Si nous contestons, si je conteste avec l'Esprit de Dieu, mes oreilles vont finir par devenir insensibles. Mon cœur va devenir par finir insensible, par devenir insensible. » Gardons la parole de Dieu comme seul guide de notre vie et de l'Église et appliquons-nous à la mettre en pratique. J'aime beaucoup ce texte de l'Évangile de l'homme sage et de l'homme fou qui construisent l'un sur le roc et l'autre sur le sable. Et je rappelle souvent que la différence, ce n'est pas d'entendre la parole, la différence, c'est de la mettre en pratique. Il y en a deux qui entendent la parole. Celui qui est sage, il l'a entendu aussi. Celui qui est fou, pardon. Sauf qu'il ne la met pas en pratique. Gardons la parole de Dieu et appliquons-nous à la mettre en pratique. Examinons notre état spirituel devant Dieu et corrigeons si besoin notre manière de vivre sans perte de temps, aussi souvent que cela sera nécessaire. Je dis, Seigneur, combien de fois j'ai pu tourner en rond comme le peuple d'Israël dans ma vie, alors que ça aurait été si simple si j'avais écouté ta voix. Alors oui, ce sont des chemins par lesquels parfois Dieu permet que nous passions, mais qu'est-ce qu'on pourrait gagner comme temps si on était docile à sa voix et si on ne perdait pas de temps à régler les choses. On sait quand l'esprit reprend dans notre cœur. On le sait. Et puis la négligence, parfois la crainte, parfois peut-être une certaine lâcheté de dire « Ouais, mais j'ai pas le courage. Ouais, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Ouais, mais bah, tous les prétextes qu'on peut se donner. Moi, je nous encourage quand l'esprit parle à notre cœur. Alors ne tardons pas, ne perdons pas de temps. Refusons tout compromis, toutes sortes d'immoralités. Et puis souvenons-nous de notre rencontre avec Christ. Comment c'était au premier jour? Comment c'était au premier jour? Entretenons ce feu du premier amour. Si le feu, il est comme ce lumignon qui fume, alors Dieu n'est pas là pour l'éteindre, il est là pour le ranimer. Revenons à nos premiers pas dans la foi. Alors, oui, alors nous ferons partie de cette église belle, de cette église pure, sans tache ni ride, que le Seigneur attend. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, pour ton enseignement, pour ces écrits, la révélation de ta parole, Seigneur, à ceux et celles que tu as donné de pouvoir écrire à Paul, à Pierre, à Jude, à Jean, dans cette révélation sur l'île de Patmos, Seigneur. Merci parce qu'elle est inspirée de toi, Seigneur. Et même si parfois elle peut venir déranger un certain confort spirituel, mais qui est plutôt, j'irais, de l'endormissement. Alors, moi, je veux me laisser secouer, je veux me laisser réveiller par toi, Seigneur. Je veux me laisser travailler. Je veux laisser travailler ton esprit dans mon esprit, Seigneur, pour que, au jour où tu reviendras, au jour où ces noces de l'agneau auront lieu, que je sois, Seigneur, parmi ceux et celles que tu auras rassemblés dans cette église pure, belle et sans tache, Seigneur, que je ne sois pas mis à l'écart, mais que je puisse me réjouir pour l'éternité avec toi. Merci. Merci pour la patience, pour la miséricorde, pour la grâce que tu accordes encore aujourd'hui, Seigneur. Je ne veux pas être dans la tristesse ce matin, mais dans la joie et dans l'allégresse, parce que ce temps de la grâce, il est encore pour nous aujourd'hui. Et tu tends la main, tu nous attires par ton amour encore à toi. Tu nous as aimés le premier, tu nous aimes encore, Seigneur. Et tu veux qu'aucun de nous ne se perde. Alors merci pour cet amour. Merci pour l'amour manifestant Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Amen.